Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
Belle matinée sur RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À 84 ans, l'écrivain Michel Del Castillo publie un nouveau roman intitulé « L'expulsion ». Il nous le présente dans un instant au micro de Bernard Lehu. Depuis samedi, la cité de la dentelle et de la mode à Calais expose 65 robes, toutes en dentelle, des modèles uniques travaillés par les plus grandes maisons de haute couture. À suivre notre visite guidée en compagnie de Sophie Orange. Le plan de transformation pour France Télévisions qui doit être entériné aujourd'hui en interne aura-t-il des conséquences sur les programmes que nous aimons regarder? Nous ferons le point avec Isabelle Morini-Bosque et puis musique avec Charlotte Latour et des confidences en français du musicien américain Marcus Miller, l'un des plus grands bassistes au monde, révélé par Miles Davis. Il vient de sortir son tout dernier album.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Mais avant tout, vous l'imaginez bien, c'est quelques notes d'accordéon sous les doigts d'Yvette Horner. La musicienne originaire de Tarbes est décédée hier soir à l'âge de 95 ans. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour.
Yvette Horner, icône populaire, était depuis longtemps au panthéon des accordéonistes avec Astor Piazzolla et André Verschuren.
Oui, alors qu'elle voulait devenir pianiste classique, mais c'est effectivement l'accordéon qui a fait sa gloire. Une carrière hors norme de près de 70 ans. Yvette Horner aura donné 2000 concerts, vendu plus de 30 millions de disques. Elle restera la première femme à avoir gagné la Coupe du Monde de l'accordéon. C'était en 1948. Sa notoriété, elle l'a ensuite construite dans la caravane du Tour de France. Yvette Horner en fut la mascotte de 1952 à 1963. 11 tours d'affilée passés à flonflonner des airs populaires juchés sur le toit d'un véhicule précédant la course. Ce que j'ai pu manger de moustiques, disait-elle. Yvette Horner était une personnalité étonnante. Elle a abordé tous les genres musicaux, le classique, le jazz, le rock et même la dance. On l'a vu sur scène aux côtés de Maurice Béjart à Nashville avec Charlie McCoy, un des papes de la musique country, en duo avec Boy George. Puis, bien sûr, on s'en souvient, habillée dès 1990 par Jean-Paul Gaultier, robe accordéon ou robe Tour Eiffel. Yvette Horner était alors devenue une icône, Vevette Underground, jouant dans les soirées et les boîtes de nuit les plus à la mode. Le dernier à l'avoir sollicité, c'est Julien Doré en 2011, le temps d'un morceau sur son album Bichon.
Ah, si j'étais homosexuel, je n'aurais pas tous ces problèmes avec toi.
Sous sa cascade de boucles rousses flamboyantes, pour ne pas dire orange, hein, Yvette Horner, la madone des caboulots, était une femme cocardière. La chambre de sa maison de Nogent, où elle a vécu plus de 50 ans avant de rejoindre une maison pour personnes âgées, était entièrement décorée en bleu, blanc, rouge. Et vous me le faisiez remarquer un peu plus tôt dans la matinale, Yves, tous ses bibelots jusqu'aux poignées de porte étaient en forme d'accordéon.
Salut la carrière d'Yvette Horner qui vient donc de disparaître à l'âge de 95 ans. Et on va parler littérature maintenant avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous avez rencontré Michel Del Castillo, un homme rare dans les médias, bien qu'il soit considéré comme l'un des plus grands écrivains français.
Oui, né d'une mère espagnole et d'un père français, Michel Del Castillo est marqué par cette double culture. Son œuvre, étalonnée désormais sur plus de 50 ans, est unanimement saluée. Elle a été couronnée de nombreux prix. Le Renaudot, le Femina et même un prix RTL Lire. Âgé de 84 ans, affaibli aujourd'hui par la maladie, Michel Del Castillo s'est fait encore plus rare, mais il n'en continue pas moins de publier des romans remarquables.
Et c'est le cas du dernier qui a pour titre L'Expulsion, qui est inspiré d'un épisode oublié, un histoire espagnole.
Oui, alors nous sommes en 1609. Le roi d'Espagne décide d'expulser les Morisques. Les Morisques, ce sont les descendants convertis au catholicisme des musulmans qui avaient autrefois conquis la péninsule ibérique. Ils sont 500 000 au début du XVIIe siècle, hommes, femmes et enfants. Sous la pression de l'Église, qui les soupçonnent d'être infidèles à leur baptême et traîtres au roi, les Morisques sont déportés par bateaux entiers vers l'Afrique du Nord. L'Expulsion, un roman essentiel pour Michel Del Castillo, à titre historique bien sûr, et aussi personnel.
Ils ont été embarqués dans des frégates françaises, corses, et puis trimballés jusqu'à l'Algérie, où ils ont été reçus à coups de fusil d'abord.
Parce que là-bas aussi, ils étaient des traîtres. C'est le drame de ces Morisques, c'est qu'ils étaient traîtres d'un côté et de l'autre.
Ça a été une tragédie épouvantable. C'est un roman important parce que je l'écris par mon âge, avec les difficultés de la vie, avec le fait que j'étais malade. Et c'était très, très douloureux pour moi.
douloureux le débat sur le bien fondé de cette expulsion l'a été aussi dans l'Espagne de l'époque.
Mais oui, parce que les Morisques offrent une main d'œuvre très appréciée de la noblesse espagnole. Cette noblesse qui s'oppose donc à leur départ, contrairement à l'Église qui plaide la défense de l'identité chrétienne du pays. Une controverse qui va déchirer le pays et que Michel del Castillo met brillamment en scène dans une joute oratoire entre Don Alvaro, grand d'Espagne, et l'ambitieux cardinal de León. La confrontation, quand on la lit, fait écho de façon troublante au débat qui divise aujourd'hui l'Europe sur le sort des migrants, même si sous la plume de Michel del Castillo, ses deux adversaires, le prélat et le duc d'Alvaro, n'ont rien de manichéen.
Le cardinal n'est pas si sourd, si stupide. Il insiste sur la trahison, sur le fait que les Morisques ne sont pas fiables, ne sont pas des sujets fidèles de sa majesté. Et Don Alvaro a une position très généreuse, en même temps très intéressée, très ambiguë. Ce qui ressort, c'est une ambiguïté générale.
Oui, et cette ambiguïté, on la retrouve à son paroxysme chez l'un des personnages passionnants de l'expulsion, un jeune Morisque, Hassan, adopté par Don Alvaro, rebaptisé Octavio, et à qui il apprend à lire et donne une éducation catholique. Il va incarner à lui seul toute la tragédie identitaire des Morisques.
Il a le sentiment qu'il a trahi sa cause en étudiant, que les livres ont été sa perdition. Ce n'est pas absolument faux.
Mais il a trahi qui ?
Il a trahi sa communauté, mais il ne sait pas bien ce qu'il entend par sa communauté. Ça, c'est le fond de son problème, c'est qu'il ne sait pas à qui il appartient ni de quel côté il est.
Hassan, alias Octavio, palpite, personnage passionnant, hein, déchiré et déchirant de l'expulsion, le roman historique aux accents très actuels, à l'heure de l'Aquarius, signé par Michel del Castillo et dont le talent résiste au temps qui passe et à la maladie. L'expulsion est à lire aux éditions Fayard.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans quelques instants, on retrouve Sophie Orange qui nous emmène à la cité de la dentelle et de la mode à Calais.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
De la douceur et de la délicatesse. Ce matin, avec vous, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Yves.
Vous nous emmenez à la cité de la dentelle et de la mode à Calais pour découvrir Haute Dentelle. Ce sont 65 robes en dentelle prêtées par les plus grandes maisons de haute couture, Chanel, Dior, Valentino, Jean-Paul Gaultier. Je suis intrigué et à la fois impatient.
Et vous n'allez pas être déçu. Un mot d'abord sur le lieu de cette exposition. Oui. Une ancienne dentellerie transformée il y a 9 ans en musée. La brique des murs, les structures en métal sont d'origine, ce qui donne à cette cité de la mode beaucoup d'âme et un très grand cachet. Un très bel écrin pour ces 65 robes, pièces uniques en dentelle. Pourquoi Calais ? Parce que la ville est l'un des berceaux de la dentelle. 200 ans d'histoire, tradition, savoir-faire exporté dans le monde entier. Il y avait 150 manufactures dans les années 50, plus que 6 aujourd'hui qui travaillent pour Chanel, Dior et tous les grands noms.
Alors, c'est du travail à la main ou du travail à la machine ?
À votre avis.
J'aurais dit à la main, mais...
On entend la machine.
C'est parce que j'entends.
Voilà, c'est le métier à tisser, énorme. Machine de 12 tonnes, plus de 15 mètres de large, qui permet de tisser les motifs mécaniquement. Plusieurs mètres de dentelle peuvent être fabriqués chaque jour, mais il faut des hommes et des femmes pour installer des milliers et des milliers de fils, des semaines de préparation pour installer, sortir les bobines. Je vous ai amené quelques échantillons de dentelle, voilà. Du rose, du noir pour vous, si vous voulez. C'est absolument magnifique. Des bretelles. La dentelle brodée.
Il faut pouvoir aller voir le pape avec ma mantille.
Exactement.
Mantille rose.
Là, c'est plutôt mantille noire, voilà.
Marqué.
Le point des 65 robes dont je vais vous parler, c'est donc la dentelle. Elle est parfois très apparente, parfois elle disparaît complètement sous des paillettes, des plumes, des perles. C'est le cas de cette sublime création signée Chanel, décrite par Sylvie Marot, la commissaire de l'exposition.
C'est une robe cape en dentelle tuffetée de laine rose et blanche teinte artisanalement. La dentelle est ensuite rebrodée intégralement de paillettes. La cape est entièrement recouverte de plumes et de tulle déchirées. 1012 heures.
1200 heures de travail, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Rien que pour habiller la dentelle, pour mettre les perles, les plumes, etc. Je ne vous parle pas des centaines d'heures pour tisser les motifs de la dentelle, c'est du grand art. Le point fort de cette exposition, c'est que vous voyez un échantillon de la dentelle de départ, brute, avec ses motifs, et ensuite le résultat, la robe, la dentelle étoffe qui permet toutes les extravagances et les créations.
On obtient des choses qu'on n'obtiendrait pas avec un autre tissu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une dentelle extrêmement légère, diaphane, transparente, et une dentelle extrêmement lourde, de toutes les couleurs. Tout est permis, brillante, mate, empesée, légère, des effets de matière, de silicone, de métal. tout est possible. Seule l'imagination limite la chose.
Et je vous rassure, les créateurs en ont l'imagination. La preuve avec Frédéric Rumini. Il crée des collections de lingerie de luxe, prêtes à porter haute couture pour une grande maison de dentelle à Noyon, d'Arker Noyon. Une maison qui existe depuis 1840.
Nébuleuse du cygne, j'en ai fait une dentelle. Roue de voiture, j'en ai fait une dentelle. Une imitation de cuir repoussé. C'était sur le côté de mon bureau, j'en ai fait une dentelle. Voilà, tout est point de départ, c'est ça le côté intéressant. Le cul d'une bouteille de vin, j'en ai fait une dentelle, on s'est dit, ça va pas fonctionner, on en a vendu des kilomètres. C'est extraordinaire. C'est une matière auquel on ajoute des motifs, mais on en fait ce que l'on veut.
Beaucoup de créativité et d'énergie. Ouais. Hein. Et cette dentelle contemporaine cohabite avec la dentelle plus classique, la célèbre dentelle chantilly, plutôt fine et fleurie, dentelle indémodable.
La dentelle, c'est un tissu au pouvoir symbolique extrêmement fort, émotionnel. De tout temps, la dentelle est liée à l'intime. L'intime du corps et l'intime des événements. Le mariage, le deuil, le baptême.
Plusieurs occasions dans la vie pour porter de la dentelle. Vous verrez dans l'exposition une robe nude portée par Nicole Kidman, une autre dont les motifs sont inspirés de larmes en format macro, que des pièces uniques. Pour certaines, on dirait vraiment des sculptures en mouvement, festival de couleurs et de matières. Celle-là est donc noire, elle est signée Valentino, incroyablement originale.
Là, par exemple, si on regarde cette robe, il y a énormément de dentelles différentes qui sont utilisées, qui sont redécoupées et qui sont réappliquées. Plusieurs épaisseurs de dentelles, on a plusieurs motifs de dentelles et on a une même dentelle qui peut être utilisée plusieurs fois de différentes façons. C'est une œuvre d'art, sans aucun doute. Toutes les robes qui sont exposées sont des œuvres d'art.
Et on a envie de les toucher, je ne vous dis pas les porter, évidemment. Oui. Tourbillon de création, allez voir Haute Dentelle à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais, mais passez surtout aussi du temps dans les collections permanentes pour découvrir ce très beau métier, ce savoir-faire qui s'exporte dans tous les pays du monde.
Et notre dentelière s'appelait ce matin Sophie Oran. Dans quelques instants, Charlotte Latour. Bon, d'accord, alors, si vous voulez, on va faire donc les résultats d'audience de la veille.
La dentelle des audiences.
Je vous écoute.
Sur les audiences, vous m'écoutez ? Oui, j'avais pas entendu le jingle. Non, bah, eh bien, écoutez, là, j'ai bien entendu. Là, c'est Esprit Criminel qui est en tête. 4 millions de téléspectateurs et 18% du public sur la une, audience constante. Deuxième position, j'en suis très heureuse, Le Mur de l'Atlantique, film avec Bourville sur la 3. 3 millions de personnes. C'était le dernier. 3 millions de personnes et 14% du public sur la 3. C'est un assez joli score. De très peu devant Major Crime sur la 2. 2 800 000 et 12% des téléspectateurs sur la TNT. C'est C8 qui est en tête avec le film Colombiana, 1 000 000 d'images.
Alors, Raphaël Nivoy a décidé que vous gardiez la parole. On signale évidemment ce soir sur M6 The Island Célébrité avec des scorpions.
Oui, beaucoup de scorpions.
Voilà. Et sur TF1, place aux champions du monde 98.
Oui, en direct de Nanterre, nos champions du monde 98 vont affronter ceux des autres équipes de 98 de la FIFA. Ce sont tous aujourd'hui des quadras. Hein. Zidane aura par exemple 46 ans le 23 juin. Vous savez que la Coupe du Monde, j'en profite pour placer cette petite info que j'aime bien, inquiète beaucoup les nutritionnistes, puisque selon plusieurs sondages, 90% des Français vont regarder les matchs sur grand écran télé, et pour 75% d'entre eux, la pizza constituera l'essentiel de l'alimentation durant un an, la bière étant privilégiée par 61 mois par an. Heureusement, je l'ai dit. Dieu nous en garde. La bière étant privilégiée par 60% des Français, sans se faire mousser, bien sûr.
Alors, la Coupe du Monde ne concerne absolument pas France Télévisions, qui concocte, elle, une nouvelle réforme normalement précisée aujourd'hui en interne. C'est parti.
Pour le groupe, c'est le 5e schéma d'organisation en 10 ans. Ça fait grosso modo un projet de réforme tous les 2 ans. Oui. Alors, on va évoquer aujourd'hui simplement ce qui intéresse directement le public.
S'il vous plaît.
Pas France O qui dépend du ministère, mais par exemple la suppression déjà actée de France 4, la réattribution du canal dépendant ultérieurement du CSA. Quand disparaîtra la chaîne ? Le calendrier n'est pas encore connu. Plusieurs auditeurs m'ont demandé si des programmes très populaires comme Une saison au zoo ou C'est dans l'air allaient rejoindre la 3. La patronne du groupe l'avoue, elle ne le sait pas encore. Une consultation publique sera lancée cet automne. Donc si vous aimez ces programmes, il sera temps de vous décider à ce moment-là et de voter. Même flou artistique sur les dessins animés. Une partie pourra passer sur la 2, une partie sur le numérique et une partie disparaîtra purement et simplement. Une seule chose est sûre, il faut préparer aujourd'hui une grille de rentrée comme s'il n'y avait pas de réforme, tout en préparant justement cette réforme qui n'est absolument pas chiffrée pour l'instant. Et la plus grosse inquiétude porte sur France 3, qui est désormais tellement axée sur les régions à l'avenir qu'elles pourront décider 6 heures par jour, elles pourront décider de remplacer en soirée un programme national par un événement local. Les tests seront réalisés en septembre sur 2 villes phares, Marseille et Paris. Exemple. Il y a par exemple ce soir Tandem. Oui. Une région peut décider quel est un spectacle vivant à promouvoir qui est plus intéressant ou qu'il faut aider et remplacer Tandem par cet événement local. Alors c'est intéressant. intéressant, c'est risqué pour la part de marché, globalement. Alors la direction affirme, j'adore cette phrase, qu'il y aura désormais une télé pour tous avec des programmes pour tous, voilà, à méditer. Elle rappelle en conclusion la direction du groupe que Michel Drucker et Patrick Sébastien seront sur la 2 à la rentrée, le second avec 7 soirées seulement, le premier sans avoir encore signé. L'un des chouchous de la rentrée, c'est Nagui, qui garde son volume d'émission et produira en plus l'émission santé de Michel Drucker, de Michel Simès, bah décidément. De Michel Simès, il y en a deux simplement signés pour l'instant, hein, en deuxième partie de soirée. Mm-hmm. Nagui propose ce soir une deuxième émission de Seul contre tous, programme trop long de 2h10. Je voulais expliquer le concept.
Combien d'enfants vont résister à la tentation de manger des oursons en chocolat? Combien de temps faut-il pour descendre la tour Montparnasse en rappel? Combien Thierry Omeyer, dans sa cage de handball, peut-il arrêter de service de Fabrice Santoro? Valérie Beg et Bruno Guillon présentent tous ces défis incroyables dont certains seront réalisés en direct. Le candidat en plateau sera aidé, attention, par Chantal Latsou, Nathalie Corré et Artus. À vous de les affronter dans un quiz interactif géant et vous ne trouverez pas les réponses sur Internet. Venez vous amuser et gagner jusqu'à 60 000 euros. Et des voyages au soleil.
C'est entièrement basé sur les statistiques. Des candidats affrontent donc tous les téléspectateurs un par un. La première, le 10 février dernier, n'avait absolument pas marché face à The Voice sur le TF1. 1 700 000 curieux seulement, avec Bruno Guillon et la diffusion un mardi. Ça pourrait séduire davantage le public.
Probablement. Alors, quant au feuilleton tandem dont vous parliez, on le retrouve ce soir sur la 3.
Oui, le public aime ce couple de policiers qui, bien que divorcés, se tournent autour, comme on dit. L'ex-mari tente de savoir si son ex-femme a refait sa vie.
Alice trouve très bien que tu puisses avoir un nouvel homme dans ta vie.
D'accord, tu parles de ça avec les enfants, toi?
C'est sain, dans une famille, de pouvoir parler tout librement.
En toute honnêteté, sans curiosité mal placée.
Honnêteté, c'est le mot. Pas de cachotterie.
Bien sûr.
Ah ouais, t'as quelqu'un là. C'est super. Je le connais.
Voilà, donc la suite ce soir sur la 3, c'est une série qui marche très bien. Moins que Marlowe, mais plus que la fiction du samedi encore.
Dans un instant, nous avons une rencontre, probablement avec le plus grand bassiste au monde. Il s'appelle Marcus Miller, c'est un nouveau copain de Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Il est 9h22. Musique entre funk et jazz à présent. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'un des plus grands bassistes au monde. Il y a quelques jours à Paris, Marcus Miller vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Laid Black.
Marcus Miller possède 35 guitares basses, des Fender, des Sire, mais celle qu'il préfère et sur laquelle il joue le plus souvent, c'est celle que sa mère lui a offerte quand il avait 17 ans. Preacher's Kid, c'est un hommage à son père, pianiste et organiste à l'église. Grâce à lui, il y avait toujours de la musique dans le petit appartement de Brooklyn où il vivait. Marcus Miller a commencé par la clarinette au conservatoire à New York et puis s'il est passé à la basse. Eh bien, figurez-vous, c'est grâce au Jackson 5, il raconte.
J'ai voulu jouer la batterie, mais dans le petit appartement, c'est pas
c'était
possible.
C'était pas pratique.
Oui, pas pratique et j'ai choisi le clarinette. Mais... À l'âge de 10 ans, j'ai entendu Michael Jackson et ses frères. C'était le Jackson 5. Michael Jackson, à ce temps, il avait 10 ans et j'avais 10 ans aussi. Et donc, j'ai décidé que je voudrais essayer de jouer la musique de soul, de R&B. Et le clarinet, ça ne marche pas dans cet style de la musique, cet genre. Et donc, le frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson, il était bassiste. J'ai pensé, c'est une bonne chose. Et donc, j'ai essayé de commencer de jouer la basse. I fell in love avec la basse.
Miller aura 59 ans dans deux jours, il en fait facilement 10 de moins. Sa carrière a décollé à 22 ans lorsqu'il a commencé à travailler avec une de ses idoles. Un jour où Miles Davis, qui se trouve dans les mêmes studios d'enregistrement que Marcus Miller, lui a laissé un petit mot en disant qu'il voulait le rencontrer. C'est ainsi qu'est née une belle amitié. Miller a été le bassiste de Miles, puis son compositeur sur l'album Toutou en 86. Il nous explique ce que l'icône lui a appris.
Je pense que la chose la plus importante est qu'il faut découvre son style propre. C'est très important. Quand on était un musicien très jeune, on fait l'imitation des autres. Mais à un certain point, c'est le moment pour trouver quelque chose d'unique, quelque chose de l'intérieur de soi-même.
Marcus Miller a su créer son style à lui, un son net, métallique, toujours tellement rythmique, avec un groove incroyable. On ne compte plus ses collaborations, Aretha Franklin, Sinatra, Claude Nougaro, France Gall même. Là, on vient de l'entendre avec la Belge Célassiou pour un Que Sera Sera déjanté à retrouver sur l'album. Contrairement à ses aînés, pas d'excès de substances en tout genre. Hein, pour Marcus Miller, il tient à rester sain, il fait du basket, il est marié, papa de 4 enfants, bien sous tout rapport. Et ce boulimique de musique n'a pas de quoi se lasser, car en plus des tournées et de ses propres compositions, il travaille aussi à des compositions de musique de films, de séries, des arrangements pour des chanteurs pop ou R&B. Un touche-à-tout qui semble imperméable au stress, doux et à l'écoute, et peut-être aussi un brin perfectionniste. Mais il concède qu'en musique, la perfection est une ennemie.
Pour moi, si les notes, les rythmes, c'est absolument parfait, c'est un problème. Parfait pour la musique et le mélange entre les erreurs et le rythme et les choses magiques. Et je pense que la musique parfaite n'est pas parfaite dans le sens de technique.
Trip Trap ouvre l'album et c'est un morceau qu'on est en train d'écouter en ce moment même.
Dites-moi, comment se fait-il qu'il parle aussi bien le français, notre Marcus ?
Et oui, bah, il doit ça à son public francophone. Il fait une bonne soixantaine de concerts chaque année en France, au Canada, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Alors il s'y est mis il y a 7 ans, pendant les tournées, quand ses copains du groupe écoutent du hip-hop ou John Coltrane, et bien Marcus Miller, lui, il repasse ses cours de français. Il m'a confié qu'il avait même réglé son GPS en langue française. Pour rouler dans Los Angeles, ça ne doit pas toujours être évident. Vous l'entendrez sur scène et en français le 3 juillet à Jazz à Vienne, le 8 juillet à Fontainebleau, le 19 à Juan-les-Pins, ou encore le 30 à Marciac. Son album Late Black est paru au sein, bien sûr, du mythique label Blue Note.
Rien que des rendez-vous dans des endroits absolument merveilleux. Merci beaucoup, Charlotte Latour, de nous avoir fait découvrir le dernier Marcus Miller. Dans un instant, nous allons nous séparer et accueillir Julien Courbet. On a commencé avec Yvette Horner et on a fini avec Marcus Miller. C'est avec ça, on n'est pas éclectique. Voilà. Je me pends et on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien.
Comment allez-vous? Vous qui êtes un grand fan d'accordéon, peu de gens le savent.
Mais oui.
Vous en écoutez
savez,
dans votre voiture.
Tous les genres musicaux. Sûr, j'ai été élevé dans un esprit de compréhension mutuelle et réciproque sur toutes les musiques.
Qu'est-ce que c'est que cette phrase que vous voulez faire? Vous vous prenez pour qui? Pour nous donner des leçons comme ça, Yves Calvi?
Si vous prenez ça pour une leçon, là, je ne peux plus rien faire pour vous.
Bon, bonne journée en tout cas.
On vous écoute avec plaisir.
Bonne matinée.
Vous écoutez RTL.